La chèvre de Madame Roche.
Il y a ma classe 1 et il y a la salle qui est ouverte juste à côté. Alors, c'est une salle d'activité, il n'y a personne, c'est au calme. Voilà, il n'y a pas d'enfants, mais c'est, bon, ça reste une salle d'activité. Voilà. Pour l'instant, il n'y a personne. Dans 5 minutes, j'y suis avec tous mes loulous, quoi.
Ah, c'est dans 5 minutes.
C'est à 30 que ça sonne. Donc là, ils ont un temps d'accueil, mais la salle à côté, oui.
D'accord, ok, ça marche.
Allez,
génial. Et même
allez.
Bonjour. Donc, Sandrine, c'est.
Chanté.
Oui,
de Radio Albiges.
Ouais. Voilà, je prends déjà du son.
Ah ouais, c'est bon. Je peux pas dire de conneries, quoi. Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Mardi 14 février 2023, l'école primaire de Cambon. J'ai rendez-vous avec Marie Sanchez-Hernandez de l'OCCE, Office Central de la Coopération à l'école. Marie m'a proposé de venir faire un petit reportage autour d'une rencontre, entre des enfants et une autrice, comédienne et metteuse en scène.
Alors, je m'appelle Sandrine Roche, je suis autrice, j'écris du théâtre, je suis éditée aux éditions théâtrales depuis 2011 et j'ai aussi une activité de metteur en scène avec ma compagnie qui s'appelle l'association Perspective Nevsky. Avec cette compagnie, j'essaye de travailler sur mes textes, de comprendre comment ces textes se déploient au plateau, et ça me permet de continuer à écrire toujours mieux, enfin j'espère. Donc c'est mon vrai métier, le cœur, c'est vraiment autrice.
Bonjour.
Me faufilant dans la classe en essayant de faire oublier mon micro, je vais tenter de vous faire partager un instantané de cette rencontre particulière, tout en faisant aussi plus ample connaissance avec Sandrine Roche. Bonne écoute.
Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un micro. Ça enregistre les voix.
C'est parfait. Voilà. Donc c'est Wilfried qui travaille pour la radio. D'accord ? Il vient là pour faire des enregistrements. Donc il a un beau micro avec une belle moumoute, on aurait presque envie de lui faire des câlins, hein, mais bon, ça sert pas à ça.
On dirait une chèvre.
Une chèvre ou un loup?
La chèvre de Monsieur Seguin.
Moi je pense qu'il a réussi à attraper le loup de l'histoire et peut-être qu'il va plus embêter les chèvres celui-là. Je vous présente Sandrine Roche.
Bonjour. Ça va bien, c'est super de tous vos prénoms et tout.
Ah, on a essayé.
Génial. Ça va?
Oui.
Tout va bien?
Oui.
C'est bientôt les vacances?
Oui.
C'est trop chouette?
Oui.
Ouais. Bah alors, vous avez lu un petit peu de la chèvre de Monsieur Seguin?
Oui.
Enfin, Ok. Et puis quoi, vous avez des questions dessus ou vous avez des choses à me demander sur le livre, sur mon métier, sur...
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a préparé? On a des petites choses, Lénice.
Aussi, pourquoi tu avais écrit Ravi au livre?
Ah, alors,
c'était déjà une question.
On a des questions, donc on a une petite affiche avec des questions. Et tu l'attrapes le dé, Charlotte? Tu sais où il est? Tu l'as vu?
Yes.
Ah ben moi je ne travaille plus, maintenant c'est vous qui faites tout.
C'est toi qui lance. Qu'est-ce que vous préférez? C'est moi?
Alors ce matin, j'ai commencé par une classe à Gaillac, voilà. Une classe de CM1. Classe de CM1 à Gaillac où alors j'avais un jeu avec un dé, je devais tirer des questions c'était des questions plutôt autour d'un portrait chinois, si j'étais une plante, qu'est-ce que je serais, un arbre, etc. Et puis après on a discuté un peu à bâton rompu de ma pièce Ravi qu'ils étudient. Alors Ravi, c'est une adaptation de La Chèvre de Monsieur Seguin. Donc en principe, ils connaissent, ils ont en tous les cas leur maîtresse ou quelqu'un leur a lu l'histoire de Alphonse Daudet. Et puis on essaye de parler de moi, de comment j'ai voulu, ce que j'ai fait avec Ravi, ma nouvelle version de La Chèvre de Monsieur Seguin. J'ai gardé l'histoire de Daudet, mais voilà. Et puis ensuite, je suis allée à Le Verdier pour voir une classe de campagne. Alors, c'était une classe unique qui allait de la grande section de maternelle au CM2. Et c'était super, une grande discussion avec des âges différents autour de Ravi, des questions sur mon métier, sur le texte. Et puis ils ont terminé en me faisant un cadeau, ils ont chanté La Tendresse de Bourville. Et donc c'était parfait pour une Saint-Valentin.
Pas la chaîne, parce que quand j'avais votre âge, ma maman elle me lisait cette histoire quand j'étais petite. Et puis ça me faisait super pleurer. Me disait, mais alors là, cette histoire, elle est triste, quoi. C'est une petite chèvre.
Oui, c'est
une chèvre aussi. Bah ouais, elle veut aller dans la montagne et tout. On lui met une corde et puis on lui
dit... Et le loup dévore la chèvre.
Voilà, c'est quand même pas chouette, juste parce qu'elle veut voir la montagne. Alors je disais à ma maman de me lire l'histoire et puis je pleurais. Alors ma maman disait, bon, je te la lis plus. Et je disais, non, si, vas-y, je vais plus pleurer, je te promets. C'était comme ça. Alors, je disais, alors, s'il était la chèvre, je me disais, Sandrine. Tu as dit que tu pleurais plus. Ouais, non, je te promets, je pleure plus. Et en fait, je pleurais tout le temps, quoi. Alors, je ne pourrais pas être cette histoire. Mais en fait, les histoires traditionnelles, elles font un instant... En fait, mais c'est ça qui est super. Elles font un peu pleurer ou elles font un peu peur.
Comment vous préparez ce genre de rencontre avec des âges différents, avec des conditions différentes? J'imagine que autrice, c'est très solitaire devant la feuille. Ensuite, il y a d'autres étapes. Mais là, des rencontres avec des enfants, comment ça se prépare?
Alors, je ne sais pas si ça se prépare. En fait, l'idée, c'est de garder de la fraîcheur. Et c'est un peu le même métier que comédien. C'est-à-dire que parce que les questions sont souvent les mêmes. Donc, on tourne autour de la même chose. Et on va répondre plus ou moins la même chose. Mais il faut garder un peu d'immédiateté, de présent là-dedans. Donc, il y a des fois, je varie un peu les réponses en fonction des âges. Et... évidemment. Et puis d'autres fois, je suis sur les mêmes réponses, mais j'essaye de me ressourcer comme le comédien, qui a la même partition et qui doit être vivant et neuf à chaque représentation. Après, je suis restée, là j'ai une grande tournée depuis mi-janvier jusqu'à fin juin. Et entre septembre et décembre, je suis restée chez moi, déjà j'écrivais, mais j'ai fait beaucoup de yoga et d'aïkido. Une espèce de rapport au présent, au corps, tout ça. Donc ça m'a ressourcée et puis là voilà, je me suis préparée physiquement pour ma tournée.
On lui met zéro pour ses réponses à son
non.
Merci. 100% de bonnes réponses.
Et 1000 pour 1000.
Super. C'est vrai, maman qui va être contente.
Nous aussi on a eu du mal à y répondre à ces questions.
Est-ce qu'il y a des surprises dans la compréhension que les enfants peuvent avoir des mots? Est-ce qu'il faut les redéfinir? Est-ce que vous faites attention au vocabulaire? Vous prenez le temps aussi de...
Oui, je fais attention et en même temps, moi quand j'écris, généralement je ne sais pas pour qui j'écris. Chaque fois j'ai des préoccupations d'adulte et je me mets en relation avec des enfants et puis j'essaye d'écrire dans l'espace qui est entre nous justement, entre les enfants quel que soit leur âge et moi, et avec l'idée que les textes puissent être lus par tout le monde, chacun à son niveau. Du coup c'est vrai que des fois c'est publié en jeune public, des fois c'est en répertoire adulte, mais même répertoire adulte il y a des enfants qui peuvent le lire ou qui peuvent voir les spectacles et ils comprennent ce qu'ils ont à comprendre, ce qu'ils peuvent comprendre. Mais moi, j'y prête pas trop attention. Et quand je leur parle, c'est vrai que évidemment, je sais qu'il y a des choses, c'est trop tôt. Ils peuvent pas comprendre certains endroits de la pièce. Mais j'essaye pas de varier trop mon vocabulaire. C'est plutôt un état de présence. Je vais être plus ludique et joueuse avec des petits. Et puis un peu plus sérieuse avec des plus grands, où on va vraiment discuter. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes mots. Puis je parle de la même chose. Et puis on voit ce qu'ils captent, quoi, et je m'adapte. En fait, c'est vraiment un truc d'adaptation dans le présent.
Pourquoi as-tu choisi de devenir autrice? Je sais pas si j'ai choisi. Alors, je dis tout le temps aux enfants, là, mais c'est un peu bizarre, la vie, parce que la vie, c'est exactement comme un chemin. un chemin, comme quand on part en balade. Vous savez, on prend un chemin dans la forêt, puis à un moment, le chemin, il passe dans la montagne. Tiens, marrant, hop. Et puis, il repasse dans un petit sous-bois, puis il y a une clairière. Et puis là, oh, il y a une route où il y a des voitures. Tiens, je vais prendre un peu la route avec les voitures. Oh, ça va sur l'autoroute. Oh, bah mince, je suis sur l'autoroute, oh, là, n'importe quoi. Pof, je prends la sortie, un autre petit chemin. En fait, la vie, c'est pareil. C'est comme un chemin. Et donc, on fait des choses, on va à l'école. Un jour, on dit, ah, moi, j'aimerais bien être astronaute dans la vie, ou cosmonaute. Oh, moi, je voudrais être cosmonaute. Ok, moi, c'est ça que je veux faire. Et puis, finalement, en faisant plein d'études pour être cosmonaute, d'un coup, on se dit, ah oh, non, tiens, c'est marrant, quand je faisais mes études pour être cosmonaute, on regardait plein de photos du ciel et tout, ça me donne envie d'être peintre. Alors, tiens, je vais essayer de prendre ce chemin pour être peintre. Puis, je suis peintre et tout. Ah, mais peintre, je dessine des gens. Non, en fait, j'aimerais travailler avec des gens. Ah non, j'aimerais devenir maîtresse. Et donc, en fait, moi, j'ai jamais choisi de devenir autrice. Je sais pas, je suis devenue autrice. Je faisais d'autres métiers, j'ai fait d'autres choses. Et à un moment, j'aimais bien écrire, hein, depuis toute petite. Quand j'étais petite, j'écrivais plein de poèmes. Et ma maman, elle les a tous gardés. J'avais des poèmes partout, ça, quand j'avais 7-8 ans. Et puis, bon, peut-être c'était écrit comme ça que je devais devenir autrice, mais je l'ai pas décidé. Ça va, c'est une réponse qui vous va?
Oui, oui.
Si les réponses ne vous vont pas, vous me dites. Hein.
Donc comment vous voyez justement les rapports que peuvent entretenir aujourd'hui en 2023 la jeunesse à l'écrit, au théâtre, sachant qu'il y a de plus en plus d'écrans, il y a de plus en plus de virtuels, par rapport à pas si longtemps d'ailleurs, j'imagine que les bouleversements sont assez brutaux. Comment vous le voyez tout ça?
Alors justement, je me disais, là, je me suis fait une réflexion depuis que j'ai commencé cette tournée, parce que je vois des classes pas forcément simples, en fait, c'est pas des gens, c'est pas acquis comme public, et je trouve qu'il y en a beaucoup qui écrivent, en tout cas naturellement. Alors c'est dur, ils vont pas jusqu'au bout, mais on me parle pas de films ni d'écran, on m'a beaucoup parlé de manga. Par exemple, donc c'est de la lecture, le manga, il y a du dessin, c'est du langage, quoi. Mais là, je trouve, bah alors là, bon, au Verdier, ils voulaient tous être très écrivains, quasiment. Mais à chaque fois, les gamins parlent d'histoire, ils sont très soucieux de savoir comment on écrit une histoire, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le principe, et l'écrit leur parle. Et puis bon, là, le théâtre, c'est autre chose parce qu'on est dans l'oralité, et du coup, il y a forcément une forme ludique. On va le lire à plusieurs, à voix haute, et on n'est pas, donc ça désacralise un peu, je trouve, déjà moi, de venir en classe, ça désacralise le mythe de l'écrivain, en fait, parce que moi je suis comme tout le monde, genre je fais des fautes d'orthographe, des fois je suis perdue, j'en pleure tellement j'y arrive pas, enfin je suis vraiment très basique, je leur explique que j'écris en marchant et pas derrière mon ordi, je suis pas une grande intellectuelle qui reste derrière mon ordinateur avec mes encyclopédies, je vais marcher, j'écoute les bruits et je fais, ah tiens, peut-être j'ai une idée qui vient là. Et du coup, ça nous met au même niveau. Et finalement, tous, ils disent « Ah oui, moi aussi, j'aime bien faire des histoires. » Ou des choses comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt sain, le rapport à l'écrit, là, pour l'instant, et au théâtre, au jeu. Il y en a qui ne connaissent pas du tout. Mais c'est super d'être en groupe avec la classe et puis d'inventer des jeux de théâtre, découvrir ça, inventer des trucs, dire une phrase à voix haute, oser. Et donc, là, je suis au début du parcours, mais je pense qu'il y en a... Des fois, on voit des gamins comme ça qui sont très renfermés. Et puis tout d'un coup... Ils ouvrent l'œil, puis ils écoutent. On se dit, il y a un truc, et puis peut-être à la fin de l'année, il sera debout et il dira les phrases très fort. Donc voilà, je sens que c'est assez pour eux. Non, je pense que ce qu'il faut faire, c'est être très curieux de tout. Toujours écouter, avoir envie d'écouter de la musique, de la peinture, écouter les gens, regarder ce qui se passe, se questionner sur le monde, et surtout, toujours se demander qu'est-ce que j'en pense moi. Parce que des fois, on dit, on va prendre les avis des uns et des autres, puis on se dit, moi, comment je vois ça? Des fois, c'est difficile. Parce qu'on se dit, tiens, c'est marrant. Moi, c'est ça mon idée. Je vois le monde comme ça. Et puis, tout le monde le voit différemment. Alors, on a un peu honte. On se dit, oh là là, c'est pas normal et tout. Mais non, il faut vraiment garder ça. Il faut lire plein d'histoires pour voir comment les gens racontent des histoires. Et se dire, tiens, moi, je préfère comme il est écrit là. Ou bien lui. Puis, ça change en plus. Hein. Des fois, on aime bien un truc. Après, on n'aime plus. Et on aime autre chose. Donc, il faut lire pas mal. Et puis surtout, il faut se dire qu'on écrit comme on veut. C'est ça qui est génial. C'est de pouvoir inventer des mots. Alors pour inventer des mots, il faut déjà connaître les bons mots. Et après se dire, oh, je vais inventer d'autres mots, je vais écrire des trucs incroyables. Et c'est sa façon d'écrire. Donc on devient auteur, autrice comme ça. En inventant, toujours. C'est de la magie un peu.
Est-ce qu'il y a des questions ou des interrogations sur, justement, vous avez parlé de la figure de l'écrivain au masculin. Est-ce que, parce que pendant longtemps, peut-être en tradition française, c'était l'écrivain, le Victor Hugo, etc., l'homme derrière la plume. Justement, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est, ça devient plus naturel aujourd'hui, en tout cas pour le public que vous avez eu ?
Moi, il n'y a aucune question. Je suis écrivaine, autrice, même j'en dis maintenant ça change, on dit auteurice, parce que du coup, peut-être je serai non-genrée, donc je serai auteur et is en même temps. Et ça leur pose aucun problème. Il n'y a aucun questionnement sur le fait d'arriver à faire ce métier en étant une femme. Il y a pas de, ils n'ont aucune référence, en tous les cas, ils ne les énoncent pas. Il n'y a pas la référence d'un auteur masculin. Enfin, souvent, je rigole, j'arrive et puis ils me disent « Ah, tu es Sandrine Roche ?» Je dis « Ouais, vous attendiez à me voir avec une grande barbe. » Donc, c'est plutôt... Il n'y a pas la question du genre, je pense que quelque part c'est ancré, c'est la question du mythe. Donc le mythe est lié au masculin, mais même si c'est pas formulé, mais il y a quand même quelque chose qui est lié à ce mythe de l'écrivain, c'est quand même un personnage très étrange, quoi. Et c'est plus, et puis assez rapidement, bon, ils voient, je déconne avec eux et tout, ça va, je suis normale. Et puis ça désengage tout et personne ne m'en parle en fait, non, personne ne me parle de ça. La figure masculine ou féminine.
Sur le, là, on se rencontre, on fait de la radio, du son. La sonorité des mots, est-ce qu'elle vous la pensez quand vous écrivez ? Moi, par exemple, j'ai un accent. Est-ce que vous écrivez avec un accent ? Est-ce que vous imaginez comment peuvent lire aussi les sonorités ? Comment peuvent sortir les mots dans la bouche, puisque ça peut être destiné donc à sortir ?
Alors moi, je pense qu'au son. Je n'écris qu'en fonction du rythme et du son, et je leur dis ça aux enfants, que pour moi le mot c'est une onomatopée en puissance, et qu'à l'intérieur d'un mot, bon, il y a plein de sons, il y a plein de jeux de mots du coup. Et quand j'écris, c'est, alors je pense pas forcément à des accents, mais je prends déjà le son basique de ce mot, les me, les be, les te, les pe, les o, enfin je prends tout ça, et puis j'écris, je tricote, mais tricoter pour moi c'est trouver le bon son, la bonne musique pour chaque personnage, pour une narration, et donc c'est assez simple, c'est soit il y a des espaces dans la page, des façons de revenir à la ligne qui créent des rythmiques, des mots en plus gros, en plus petit, en italique, c'est penché. J'ai pas de solution, mais je dis ça, c'est une enquête musicale, et on se dit tiens, ben peut-être les mots penchés on les dirait comme ça, ceux qui sont droits on les dit autrement, s'il y a des tirés c'est pas des points, et donc voilà, on lit cette partition, donc je parle que de ça. Et je leur donne souvent en exemple un texte que j'avais écrit avec des enfants de CE1 qui m'avaient fait faire une visite de leur ville, et je devais écrire des cartes postales sonores avec ça. Et donc, il y a plein de mots qui sont des onomatopées, des ressentis de paysage, de lumière, etc. Les gamins qui courent. Et puis surtout, des mots liés. Je dis, quand on est étranger, si on arrive en France, on ne comprend pas le français. Moi, je ne fais pas des espaces dans ma langue entre les mots. Donc, c'est un seul mot. C'est un seul mot. C'est un seul mot. Et je m'amuse avec ça, avec cette phonétique-là. Et du coup, ça devient une onomatopée qui peut donner plein de sensations. Donc ouais, on parle beaucoup de ça, en fait, du son, des mots.
Moi, j'ai beaucoup de trac. Je ne suis pas une grande comédienne, mais j'ai le trac. Mais quand tu es devant le public, quelque chose se passe. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la magie aussi. Quelque chose se passe où tu dois le faire. Et hop, tu as une espèce de force, comme ça on devient un super héros. Et on peut faire la pièce de théâtre, le théâtre. Donc en fait, c'est vraiment possible. Ce qui est plus, alors ce qui est dangereux, c'est quand on n'a pas peur, parce que souvent, quand on n'a pas peur avant, en plein milieu de la pièce de théâtre, bing, on se met à avoir peur, oh, on ne sait plus rien. Ça, c'est dur, c'est très très dur. Mais c'est mieux d'avoir peur, c'est mieux de ne pas avoir du tout peur, mais d'avoir peur avant, en fait, tout d'un coup, tu dis, il faut que j'y arrive, il y a tout le monde et tout. C'est comme une autre réalité, la pièce de théâtre, c'est un autre monde. Et donc, tu joues un personnage et c'est super. Tu es avec les autres, tu joues avec les autres, tu fabriques un monde. C'est merveilleux, ça. C'est comme jouer, c'est vraiment comme, c'est jouer. En fait, faire du théâtre, c'est vraiment jouer. Moi, je dis toujours, c'est comme un jeu d'enfant, vous êtes des enfants. Moi, j'ai une petite fille, maintenant elle est grande. Mais quand elle était petite, elle écrivait des histoires avec ses poupées. Moi, j'écrivais avec mes crayons. Et j'allais la voir de temps en temps et je disais, ça va ton jeu ? Et elle me racontait son jeu. Et je disais, ah ouais, mais moi, je fais exactement le même jeu avec mes crayons, en fait. Moi aussi, j'ai des petits personnages, des petites poupées comme ça. Et je dis, ouais, ça va toi ? Bon, pas très bien. Et toi ?
Sur la posture du corps dans le théâtre aussi, est-ce que vous avez le temps de travailler sur ça, sur comment on se positionne, comment on pose sa voix, comment...
Alors ça, c'est pas moi qui le fais, c'est les intervenants. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'en parler. La seule chose que je fais, souvent, je leur raconte que les idées sont nichées dans les talons. Et donc, je me lève et je marche. Je dis, il faut bien taper les talons. Et quand on tape, ça remonte là, par les mollets, les cuisses et tout. Et les idées reviennent. Donc, je lis souvent, je lis des partitions. Et moi, j'ai des lectures assez engagées physiquement parce que j'ai un théâtre physique. Enfin, j'aime beaucoup ça, le corps. Et du coup, ça donne sans doute, enfin, ils voient que c'est un endroit où on peut y aller, quoi. On peut se lâcher. Mais j'interviens pas directement sur leur façon de dire et de parler, quoi. Ça, c'est pas la part de mon boulot, là, à ce moment-là.
Mais merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Ah ouais, comme dans un manga, quoi. Ça va ?
Merci à Marie Sanchez-Hernandez de l'OCCE, Office central de la coopération à l'école. Retrouvez Sandrine Roche et son livre Ravi sur www.editionthéâtrale.fr. Merci aux enfants de l'école primaire de Cambon ainsi qu'à leur maîtresse. Merci pour la musique à l'ensemble Aqualactica. À Dichatz.
Ce qu'on va te raconter, ma blanquitinette, c'est pas joli, joli. Attends-toi à frémir. T'es là, toute tranquille, tu te doutes de rien, tu crois que tout va bien, et les ennuis commencent, ma belle. Ne font que commencer. Hé, vous voudriez pas me laisser dormir? C'est la nuit et j'ai pas trop envie de discuter, en fait. Donc, Blanquette, t'as pas les gambettes qui te démangent? Non? T'as pas la nostalgie du grand-père? Là, tout de suite, non. T'étais où avant Blanchie Mounette des Bois? Je sais pas, dans un pré, une forêt. Toute seule? Non. Attachée? Non. Ben voilà, on y est. Bienvenue Blanchette, tu es la septième. La septième quoi? La septième chèvre de Seguin. On peut dire qu'il en consomme. Pas une qui a passé plus d'une semaine dans l'enclos. Toutes disparues sans laisser de traces. Et on sait de quoi on parle. Tu te rends compte? Il y a comme un problème, non? Alors nous, on s'est dit, la septième, c'est la dernière. Basta, suffit, faut agir. Et voilà, on est venu te voir. Vous essayez de me faire peur ou quoi? C'est la nuit, on pourrait peut-être discuter de tout ça demain. Demain? Mais elle comprend rien. Trop jeune, manque d'expérience. Faut mettre le paquet.